sous médicaments, sous tranquillisants. Je crois que c'était du Tranxen ou quelque chose comme ça. Et il a bu du vin en même temps que son repas. Or, ce qu'ont expliqué les médecins, c'est que le mouvement de la déglutition est une suite de mouvements extrêmement coordonnés et qu'il suffit qu'il y ait un seul des mouvements qui ne se coordonne pas avec le suivant pour qu'on s'étouffe. Et ce qui est idiot, c'est qu'il était seul chez lui, parce que n'importe qui aurait été là, il l'aurait attrapé, il y a une manœuvre à faire, on attrape la personne par derrière, et on remonte le thorax très violemment, il aurait expulsé le morceau de viande. Donc la fin était purement technique et c'est devenu supportable. Mais le moment qui était insupportable, c'est le moment où il y avait un espèce de silence et cette scie qui était comme une fraise de dentiste et puis le clouc.
La première fois que j'ai vu un mort, j'avais 5 ans, c'était mon grand-père. Et donc je me suis retrouvée dans une pièce et je me souviens de ce lit-là avec, où il y avait simplement un drap. On voyait le visage de mon grand-père. Et ce qui me frappait, c'est que je l'appelais, il ne me répondait pas. Et j'en étais très étonnée, je ne comprenais pas, évidemment, mais c'était surtout de l'étonnement. Je l'appelais, il ne me reconnaissait pas, il m'entendait, je sais pas. Dans ma tête, c'était pas il ne m'entendait pas, mais il ne me répondait pas. Et ça, c'était très troublant. Et je me souviens, il y avait la silhouette noire de ma mère à côté. Je lui ai demandé pourquoi il ne me répondait pas. Je ne me souviens pas de la réponse, mais je me souviens de lui avoir posé la question, parce que c'était un étonnement, quelque chose d'incompréhensible, quoi, d'inimaginable. Et c'est curieux, sur le coup, il n'y avait pas de sentiment. Je n'étais pas triste, je n'avais pas de regret, je ne sentais pas l'absence, c'était pas ça l'idée, c'était pas un regret de ce qui avait pu se passer ou de ce qui aurait pu se passer plus tard. Je pense que c'était l'expérience brute, je parle et on ne me répond pas. Il ne me répond pas, ça c'était...
Qu'est-ce que vous lui demandiez ?
Je l'appelais, je lui disais pépère, dis-moi quelque chose, réponds-moi. Ça n'allait pas au-delà. Cette rupture, cette coupure de... C'était... Je ne peux pas dire d'autre mot, incompréhensible.
Esquiver l'incompréhensible, affronter l'incompréhensible... Depuis que l'homme est homme, les deux attitudes coexistent parfois d'une seconde à l'autre. Il y a le principe évidemment d'affronter, on est convaincu qu'il faut affronter, mais le fait-on vraiment ? Et en est-on vraiment convaincu face à l'énigme, face au tabou de la mort, au moins dans nos sociétés, et à plus forte raison au moment où la mort surgit, apparaît que fait-on ? Que pense-t-on ? Qu'éprouve-t-on ? Et l'image qui se forme à ce moment-là, comment la trimballe-t-on ? À travers le temps, à travers nous-mêmes, à travers nos mémoires, nos rêves, nos attitudes, nos réactions à une chose ou à une autre. C'est évidemment une question terrible de dire à quelqu'un « Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un mort ?» C'est une question qui fait qu'on va se masquer pour répondre. Et donc, bien sûr, si on se masque, on se démasque, bien sûr. C'est la fonction même du masque et des mots. Il y a, entre mot et mort, il y a que ce petit air qui est là. Un petit air qu'on retrouve entre les mots.
Moi, j'ai tué personnellement des gens. C'est pour ça que j'ai tué des quoi ?
Vous avez été décoré parce que vous aviez tué des gens. Alors c'était dans quelles circonstances ?
Dans les combats. Ok ? Et j'y suis pas compte. J'ai oublié de vous dire. Ex-commando OS. Vous connaissez l'OS ?
Oui, bien sûr. Vous étiez para.
Exact. 3e RPM.